Alors, la question que nous allons essayer de à laquelle nous allons essayer de répondre maintenant. C'est quand l'écriture a commencé à être prise comme norme. L'histoire du canon biblique commence donc avant l'exil. Avant l'exil, vous venez donc 587. Avant, il y a eu la découverte dont nous parle le livre des Rois, du livre de la loi, lors des travaux dans le temple. Le livre de la loi que 99,99% des biblistes considèrent être le livre du Deutéronome. Autrement dit, le cinquième livre de la Torah ou du Pentateuque. En gros, on ne va pas faire tous les détails parce que... Ce livre a été fait aussi à un moment de crise nationale très grande, de perte de confiance dans les institutions politiques surtout, et l'identité d'Israël dans ces textes apparaît comme liée au Père, Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, cette liste, et à Moïse. Moïse est l'homme clé du livre du Deutéronome, et du coup, il va devenir, après l'exil, avec la publication des autres livres, la Genèse, etc., l'homme clé de la Torah, de la loi. Mais le premier livre, de façon matérielle, la première publication qui a eu rôle et fonction des références, des normes, c'est le livre du Deutéronome, avant l'exil, un peu avant. Avec les retours de l'exil, le Deutéronome sera un peu retouché, puis il y a les autres livres, et on peut dire que vers 400, 430, disons, le Pentateuque tel que nous le connaissons à un poil près était déjà constitué et jouait ses rôles de référence de l'identité d'Israël. Après l'exil, l'identité d'Israël va être, disons, articulée autour du temple et en même temps, bien entendu, autour de la loi. Les deux piliers de l'identité israélite. Bon, vous lirez un peu d'autres détails. Les textes prophétiques ont mis plus de temps à devenir partie une partie prenante aussi de cette référence d'Israël. Et du point de vue des éléments de preuve, nous avons le livre du Siracide, qui parle déjà de la liste de prophètes. Vous avez... Non, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12. Et les normes. Donc, le Siracide, disons, c'est vers 190, 180 avant Jésus-Christ, bien entendu. Et là, donc, deux siècles avant, on a déjà aussi une liste des livres qui apparaissent comme référence pour les Juifs. « C'est un peu paradoxal parce que les prophètes ont été... Enfin, les textes même prophétiques sont chronologiquement très souvent à l'origine des textes de la Torah. Parfaitement. Comment? Les textes prophétiques même et les personnages des prophètes ont été chronologiquement très souvent à l'origine de livres du Pentateuque ou de la Torah. Par exemple, pour ne pas aller trop loin, le livre du Deutéronome, comme je vous ai dit, a été le premier à être une référence. Le livre du Deutéronome ne se comprend pas sans le prophète Osée. Dans le livre du prophète Osée.
Ils sont placés après.
Osée est quand même de 750-723. De façon évidente. Et le Deutéronome, c'est quand même de un siècle plus tard. Et le vocabulaire, et énormément des choses du point de vue théologique, par exemple, ça devient à Osée. Enfin, par exemple, le fait que Israël soit considéré comme le fils de Dieu, ça vient d'Osée, qui a fait une transformation radicale de cette expression, parce que habituellement, au 9e siècle, 8e siècle, etc., qui était le fils de Dieu? Ben, c'était le roi. Mais Osée, pour la première fois, il a démocratisé, même si le mot n'a rien à voir avec ça, mais enfin, et c'est pour Osée, c'est le peuple qui est le fils de Dieu. Quand il dit, au chapitre 11, quand Israël était un enfant, je l'ai aimé et je l'ai fait monter d'Égypte. Le peuple devient fils de Dieu, mon fils. Et du coup, on voit très bien, parce que Osée a une dent contre la monarchie, mais alors... dente totale. Et donc, effectivement, il dit que quoi, le fils de Dieu, le roi, c'est une espèce de... Enfin, je ne vais pas dire ce que je pense, mais enfin, non, ce n'est pas le roi qui est fils de Dieu, c'est le peuple qui est fils de Dieu. Bon. Bref. Mais, paradoxalement, dans au 5e siècle, 4e siècle, etc., ben, les prophètes deviennent des subordonnés et deviennent des explications de la loi. Alors, originalement, c'est le contraire, ma foi. Bon. Les vicissitudes de l'histoire, à tel point que dans l'office synagogal, on lit toujours un texte de la Torah, à l'époque de Jésus aussi, et ensuite, on lisait un texte prophétique, un haftara, qui était censé commenter le texte de la Torah. Et là, maintenant, c'est la même histoire. Hein. Si vous y allez, c'est le même principe. Ça a été en plus assez... Avec la prééminence de la Torah, quand un texte devient... Ils ont d'une part figé et en même temps officiel, qu'est-ce qui apparaît immédiatement? Les interprètes de ces textes, les experts, comment dire l'autre, comme disait l'autre, les spécialistes de la spécialité. Et donc, qu'est-ce qui va apparaître? Les spécialistes de la loi, c'est qui? Les scribes. Et vous les trouvez à toutes les pages de quatre évangiles. Les scribes et les docteurs de la loi, qui, en bonne partie, étaient tous du parti de pharisiens. Pas tous, mais enfin, un bon paquet. Comme on dit, les scribes à tendance pharisienne. Ou des tendances. Bon. Après la chute de Jérusalem en 70 de notre ère, les Israélites, enfin les Juifs, s'est trouvé ayant perdu un des deux piliers essentiels de leur identité, c'est-à-dire le temple. Le temple. Donc il ne leur reste que la Torah. Et on attribue justement une sorte de concile ou de réunion qui aurait eu lieu en 90 à Diabnia, vous verrez le mot dans le texte, qui est à côté de Tel Aviv maintenant. Une espèce de synode des rabbins philistins, pharisiens, qui ont officialisé la liste des textes canoniques. Et ils ont, entre autres, exclu la traduction grecque de la Bible, parce qu'elle était trop chrétienne. C'est-à-dire que les chrétiens avaient pompé à haute dose des traditions que la traduction grecque de la Bible véhiculait. Et là, vous retrouvez dans le Nouveau Testament l'expression célèbre « la loi et les prophètes ». Et il y a une autre expression aussi, qui n'apparaît pas trop souvent, mais enfin quand même, chez Luc par exemple, « la loi, les prophètes et les psaumes ». Et quand on regarde dans les, dans les documents des Qumran, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un canon du sage, une liste canonique du sage, c'est-à-dire les textes qui sont les plus cités dans leurs commentaires, leurs sermons, leurs machins, etc. Et les livres les plus cités, c'est la Torah, Isaïe et les 12, Ézéchiel, qu'on ne dise pas, Jérémie non plus, et les psaumes. Donc il y a un canon domestique, si on peut dire, qu'on utilise réellement. C'est comme chacun de nous, on a nos références particulières. Il y a certains auteurs qu'on cite tout le temps, d'autres, il y a aussi des vagues, il y a des modes. Il y a 30 ans, on citait tout le temps, par exemple, Girard, René Girard. Bon, je vais très bien, j'avais fait des cours où René Girard était vraiment tout à fait présent. Je me souviens encore, il n'y a pas si longtemps, un ancien étudiant qui m'avait dit « J'ai découvert René Girard dans le cours que tu nous avais fait. » Je lui ai dit « Pas très bien, tu aurais pu trouver d'autres choses pires, mais bon, il y avait ça au moins. » Donc voilà, on a chacun ses auteurs préférés, ses dadas, etc. Même si parfois, c'est plus que folklorique. Et parfois aussi, on fait des bêtises calamiteuses. Je me souviens de quelqu'un qui avait présidé un enterrement à Saint-Méry, et c'était quelqu'un de... le défunt était quelqu'un de Pompidou, ils sont à Pompidou, et le curé président de cette célébration, il dit comme ça, en se donnant une couche de culture profonde, il dit, comme dit le philosophe allemand Ricoeur, vous voyez un peu... Enfin, passons. Pour le Nouveau Testament, ça a été très compliqué aussi et très long. Très, très long. L'établissement de textes officiels pour les chrétiens. Bon, il y a eu ces disputes homériques entre Saint Jérôme et Saint Augustin. donc fin du 4e siècle, début 5e. Les disputes entre les deux, mais dignes de l'assemblée de commune, hein, enfin vraiment des gros mots de part et d'autre. Hein. Ben, sur le canon.
Oui, mais Augustin et.
Saint Jérôme. Saint Jérôme, Saint Jérôme, qui est celui qui avait traduit, enfin celui qui a traduit effectivement, ce qu'on appelle la Vulgate, la deuxième version en latin de la Bible, où il a fait quelques malhonnêtetés contondantes. Mais enfin bon, passons. Mais ça. On voit dans les manuscrits du Nouveau Testament qu'on a, il y a certains qui omettent, comme ça, par hasard, l'épître aux Hébreux, par exemple. Ou les épîtres de Jean. Et à la place, vous trouvez le pasteur Hermas, qui est un test aussi du 3e siècle, ou bien l'épître de Barnabé. Il faut attendre le 16e siècle pour que la liste officielle des livres bibliques soit reconnue officiellement dans l'Église catholique romaine. Pour les protestants, ça a été très simple, parce qu'ils ont adopté, pour l'Ancien Testament, le canon juif, et pour les nouveaux, tout sauf l'épître de Jacques. Évidemment, l'épître de Jacques, il est question, surtout, de la foi par les œuvres. Alors, c'était Luther qui n'était pas très très chaud pour cette affaire. Il disait que c'est une épître de paille. Ben, évidemment, ben, c'est toute l'histoire, ça ne va pas dans ma théorie, donc vous la discréditez, vous la mettez dehors. C'est un réflexe permanent. Il a fallu attendre 1546, le 8 avril, pour voter un décret conciliaire qui comporte la liste que nous avons maintenant. Mais jusqu'à la veille, il y avait des pères conciliaires, pas de moindre, qui excluaient, par exemple, l'Apocalypse, etc. Enfin, 1546. Je ne sais pas si vous êtes bien assis, mais le résultat du vote, c'est toujours très intéressant. Le résultat du vote fut le suivant. Le résultat du vote sur la liste des livres bibliques que nous avons maintenant, en tant que canon de l'Église catholique romaine, je dis bien romaine, je ne dis pas latine, romaine, les résultats furent les suivants. Ces décrets furent approuvés par 24 voix, oui, 15 non, et 16 abstentions. C'est là que vous voyez, si vous faites quelques éléments très simples, les nombres de non et d'abstentions est plus grand que les nombres de oui. Mais comme il s'était donné comme norme, c'est toujours une histoire, en fonction de la règle qu'on donne, la moitié plus un des votants. Déjà, vous voyez à quel point le vote blanc et tout ça, ça gêne le pouvoir. Là, c'était très clair. Si on avait pris les noms et les abstentions, les textes ne passent pas. Comme quoi, tout est relatif. On peut s'étonner de cette lenteur de l'Église à définir sa référence scripturaire. On peut répondre tout de suite que c'est par l'usage, et particulièrement par l'usage liturgique, que cette question de quel texte oui, quel texte non, va se régler progressivement. C'est donc la réception qui va être le critère et le filtre de la canonicité. Ce qui veut dire, ça c'est un point extrêmement important, l'histoire du canon est parallèle ou similaire, si vous voulez, à l'histoire de la reconnaissance mutuelle des différentes églises. C'est-à-dire, l'histoire du canon est l'histoire de l'unité des différentes communautés ecclésiales. Si vous voyez par exemple Matthieu, l'évangile de Matthieu et les textes de Paul, je pense qu'on aura eu des belles séances à la télé tous les deux. Enfin, c'est un vrai castagné sec. Bon. Comment ça s'est passé réellement? Bon, supposons, dans les années 120, disons, les gens voyageaient plus qu'on ne le pense maintenant. Enfin bon. Et ils se retrouvent, par exemple, je ne sais pas moi, dans un bistrot à Éphèse. Superbe cité, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais c'est vraiment superbe. Ils se retrouvent dans un bistrot, des gens qui vont boire, dîner, comme ça. Ils boivent comme ça et... Disons que le vin et autres alcools aidant à délier les langues, ils finissent à parler, etc., etc. Ils se découvrent chrétiens, de mecs, là, comme ça, bon, très bien, ils parlent, ils voient un autre coup. Et l'un vient de Thessalonique et l'autre de Corinthe. Ah, celui qui veut faire le super fier dit « Ah, mais nous avons deux lettres de Paul à notre communauté, mais l'autre, ah, mais nous aussi, comment nous aussi ?» Ah, ben, nous aussi, bon. Et bon, ils vont échanger. Parce que pour eux, effectivement, les lettres de Paul, par exemple, dans ces deux lieux, ben, constituaient une référence identitaire matérielle majeure. On échange nos références et en échangeant les références et en reconnaissant l'autre communauté, on reconnaît aussi les références scripturaires ou textuelles qui est la leur. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Pas trop, non? Bon. Deux groupes, deux communautés, deux églises locales, celle de la ville de Thessalonique, ou de Salonique si vous voulez, et de Corinthe, les deux qui ont été fondées par Paul. Mais avec le temps, ils peuvent très bien oublier que Paul, qui a été leur fondateur, a été aussi le fondateur d'autres. Et par le hasard de voyage, etc., des gens de ces deux communautés se rencontrent. On commence à parler et tout, et puis il y a l'un d'eux qui fait un peu le fanfaron, disant, mais nous avons, notre communauté a été fondée par Paul, et nous avons deux lettres de Paul qui fondent notre communauté. Mais l'autre dit, mais nous aussi. Comment vous aussi? Allez. Donc, les coups de pinard aidant, ils vont faire une promesse pour échanger ces textes. Et chacun, quand il rentre chez lui, il paye de sa propre bourse une copie qui envoie à machin de Corinthe. Et celui des Corinthes fait la même chose pour le nouveau copain de Thessalonique. Et les deux communautés vont recevoir. Et donc, ils vont recevoir dans le sens non seulement matériel, mais ça va devenir peu à peu aussi leur référence. Et ça peut être la même chose, par exemple, avec les évangiles.
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui centralisait
mais non.
Les lettres de Paul ?
Non, la centralisation, c'est une affaire, disons, qui a son intérêt et sa valeur, mais tout le monde n'est pas obligatoirement victime du virus du centralisme démocratique, bien sûr.
Mais ça existait ou pas ?
Mais non.
Ça n'existait même
pas. Ben, mais non. Mais non.
Parce que Paul lui-même, il recommandait dans ses lettres de faire lire aux autres communautés.
Non, que je cherche, non.
Bon, je trouverais, mais dans une de ses lettres, il dit « Faites lire aux églises à telle et telle. »
Attention, dans Paul, il y a quand même, dans les lettres qu'on attribue à Paul, il n'y en a que sept qui sont authentiques. Par exemple, les Colossiens, ni les Éphésiens, ni Tite, Timothée, tout ça, c'est pas de lui. Hein. Mais enfin, bon.
C'est l'école paulinienne.
Comment ?
C'est l'école paulinienne.
Oui, voilà, exactement. C'est le contenu, après les disciples, etc. qui ont... Mais, oui.
Qu'est-ce qui permet de dire qu'une lettre est authentique ou pas ?
Ah bon, qu'est-ce qui est... Bon, mais c'est exactement la même chose que de n'importe quel autre texte. C'est un travail, par exemple...
Il dit qu'il y en a sept, donc il y a bien fallu qu'on détermine...
C'est-à-dire que ce qui permet, c'est effectivement de... où il y a un certain nombre de critères concordants. D'une part, c'est qu'on peut savoir de l'itinéraire de Paul par ses lettres et en partie aussi par les actes, parce que là aussi il faut faire référence, et puis même aussi, ce qu'on appelle la tradition, les témoignages, de ci, de ça. Et bon, tout ça fait qu'on a un portrait de la théologie de Paul, du vocabulaire de Paul, il y a des mots que vous n'utilisez jamais. Ni moi non plus. Alors, si dans une de mes lettres, j'en fais pas trop, mais enfin, on trouve un vocabulaire qu'on ne trouve jamais ailleurs, ou bien il avait bu cette fois, mais pas un coup, mais trois. Et donc, c'est une inspiration souveraine. Mais là, on sait très bien, on ne peut pas confondre, par exemple, un texte de Jean avec un texte de Marc. C'est de manière de parler, de manière de construire la phrase, de tout, qui est différent. L'écriture est tout à fait majeure de ces points de vue. Et puis ensuite aussi, les grandes lignes théologiques. Et là, on voit, par exemple, la différence majeure entre Matthieu et Paul. Paul a passé sa vie, entre autres, à montrer et à vivre qu'effectivement que la loi juive n'était pas la voie du salut. Et Matthieu essaye de dire non, mais quand même, vous ne trouverez pas, par exemple, chez Paul, pas une seule virgule de la loi ne passera pas. Chez Paul, il aurait dit éventuellement des choses proches, mais pas comme ça. Donc il y a un certain nombre de critères matériels qui vous mettent devant des textes donc, qui ont aussi un chemin, un contenu des pensées qui est propre. C'est ce que vous disiez la semaine dernière, je crois. Par exemple, le mot père, bon, il est utilisé par Matthieu très souvent et par Jean aussi. Mais la manière de le présenter, elle est tout à fait différente. Chez Matthieu, c'est pour dire aux disciples qui sont les fils du Père et qui sont protégés par Dieu Père. Très bien. Mais chez Jean, le Père apparaît mille fois, mais toujours en référence au Fils. Le Fils Jésus de Nazareth est le Fils, le médiateur, l'envoyé. Et pour les disciples, ils s'en foutent. Et pour le chrétien, ils s'en foutent. Donc, ça, c'est des conceptions et des manières de voir qui sont très, très, très nettes. Ça répond un peu, quoi.
Un exemple ou deux de l'être authentique, par exemple, de Paul.
Romain. Corinthien. Philémon. Thessalonicien. Galate. Galate. Oh.
Il n'y a pas Colossien.
Comment ?
Il n'y a pas Colossien.
Colossien, non. Colossien est considéré comme non authentique, enfin, des disciples. Oui, mais à chaque fois, ça, vous voyez, si les Bibles que vous avez sont des Bibles normales, si on peut dire, de bonnes, vous aurez toujours une introduction qui vont vous le dire, et vous dire, cette épître n'est pas considérée comme parce que, toc, toc, toc.
Et les Hébreux aussi, la lettre.
Ah non, là, pour les Hébreux. Mais justement, un des plus grands spécialistes de ces textes, c'est le cardinal Vanoy, qui est un Français pur sucre, qui est encore vivant, et qui a été longtemps professeur à l'Institut biblique de Rome. Quand je suis allé, il était doyen, celui. C'est avec lui que j'ai eu affaire pour les équivalences. Bon. Et il a travaillé toute sa vie sur l'épître aux Hébreux. Et il faisait tous les ans un cours sur l'épître aux Hébreux, à chaque fois, sur un point, etc. Et la seule chose dont on était sûr, c'est la manière dont il allait commencer. Chers amis, nous sommes donc au début de l'année, je sais pas, 62-63. Nous commençons aujourd'hui un cours sur l'épître de saint Paul aux Hébreux, ou sur la lettre de saint Paul aux Hébreux, qui n'est pas une lettre, qui n'est pas de saint Paul, et qui n'est pas aux Hébreux. J'étais systématiquement comme ça. Et ça, c'est tout à fait certain. Alors là, finalement, admis. C'est pour ça que quand on l'entend, effectivement, dans des sermons, comme dit saint Paul aux Hébreux, je dis, oh, attends, il faut que tu ailles à ton CP quand même, parce que là, c'est une ignorance. Là, vous l'avez dans l'introduction de vos Bibles, vous l'avez. Et vous dites pourquoi, etc. D'après Vanois, c'est pas une lettre, mais c'est un sermon, une homélie. Extrêmement bien construite. Alors là, vraiment, c'est de la marqueterie fine. Mais ce n'est pas une lettre. Tandis que celles des Paul sont des lettres. Et lui-même, quand vous voyez par exemple la finale de l'épître aux Romains, il salue tout le monde, il cite au moins 20 personnes à qui il faut saluer, dès qu'il envoie des salutations, c'est vraiment. C'est par là aussi qu'on peut faire des rapprochements, des liens avec les uns et les autres, etc. C'est par les données internes au texte de Paul qu'on peut trouver aussi un itinéraire, ce qu'il a fait, ce qu'il a visité, etc. Il y a des choses qui sont assez symptomatique, par exemple. Paul, il a été taraudé par la solidarité avec la communauté de Jérusalem, avec l'église de Jérusalem. Et à nouveau, il y a une famine en Palestine et les chrétiens Jérusalem, etc. Ils ont dû serrer la ceinture, mais au-delà du normal. Du coup, Paul s'est mis en tête de faire une quête dans les églises qu'il avait fondées lui-même pour soutenir les gens de Jérusalem qui avaient faim. Et ça, il en parle tout le temps. Donc là, c'est une donnée majeure. La question de la famine aussi, par les histoires de Romains, etc. Bon, donc là, et à un moment, donc, on voit ça dans les textes des Actes. Il vient à Jérusalem porter sa célèbre quête. Les sous, les pépettes. Et on sait par ailleurs que Luc est obsédé par ça aussi. Par la répartition, par la question de la richesse, etc. Bon, c'est là que vous avez la célèbre parabole qui lui est propre du riche et du pauvre Lazare. Bon, et puis l'intendant infidèle, etc. Enfin bref, Luc est obsédé par ça. Et donc, Luc va raconter dans les Actes l'arrestation de Paul à Jérusalem par les Romains, comme fauteur des troubles, etc., et son transfert à Césarée pour être jugé par le procureur Félix, quoi. Et dès là, quand il va faire appel à Rome, ben, il sera envoyé à Rome en tant que citoyen romain. Et curieusement, la finalité du voyage de Paul, qui était celle de donner les sous aux pauvres et aux affamés de Jérusalem, Luc, que dalle. Ça a provoqué la question des gens qui ont lu tout ce texte. Je dis, ben là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Luc, qui est une de ses obsessions, n'en dit pas un mot? On n'a pas de réponse écrite. Mais on subodore, mais c'est une hypothèse, en fonction de tout ce que je viens de vous dire. Et d'autres choses, que les gens de Jérusalem avaient une idée, une image de Paul relativement prâtre et sexy. Ils voyaient effectivement comme celui qui avait persécuté, comme en plus celui qui balançait la loi, qui allait chez les païens, etc. Donc vraiment, disons une sorte de personne non grata. Et en plus, il s'est permis de lui, c'est de venir nous insulter avec ses sous. Donc là, il s'est fait foutre. Il n'aurait pas accepté la quête de Paul. C'est pour ça que Luc, comme il fait souvent, quand il veut en parler des choses un peu embarrassantes, ben il en parle pas, il passe comme ça, il glisse. Donc, en tenant compte de ce que Paul nous dit dans ses épîtres, de ce que Luc nous dit dans la bâche, du contexte général, on peut en tirer cette conclusion, parce que sinon, c'est inexplicable. Voilà un peu la manière dont on peut jouer. Pour
Les contemporains, eux deux ?
Qui ?
Luc et Paul.
Luc est plus jeune. Il a pu être un peu à la trace de Paul, etc. Mais Paul écrit dans les années 50-60. Il est exécuté, je pense, dans les années 60. Et l'évangile de Luc, il faut le mettre dans les années 80. Donc il doit être d'une 20 ans plus jeune à peu près. Mais ils se sont connus, ça oui. Ça aussi, c'est tout à fait vrai, ils se sont connus. Bon. Alors donc, on était à la question de l'histoire du canon et en même temps, effectivement, l'histoire des communautés, de la création de l'Église qui est faite d'une communion, j'allais dire d'une fédération, non, d'une communion des églises locales. L'Église universelle n'existe pas. Il y a une communion des églises locales. Et chaque église locale est effectivement entièrement l'église. C'est la différence qu'il y a entre un morceau de tarte et une partie de la tarte. Les morceaux contiennent tous les éléments qui font la tarte. Vous avez une tarte, disons, chocolat à 3 étages, etc. Vous avez la genoise, un premier machin chocolat, une autre couche de genoise, etc. Et puis les tout entouré d'une sorte de crème plus ou moins épaisse, etc. Bon. Et 3 griottes par-ci par-là. Mais pour parler de cette. Vous prenez une partie, pardon, un morceau, et vous avez là tous les éléments qui constituent cette tarte. Vous n'avez pas la tarte en entier. Vous avez tout de la tarte. C'est-à-dire que si vous dites une partie, à ce moment-là, c'est ou la genoise, ou la cerise. Mais ce n'est pas la totalité de la tarte. Donc, les églises locales, c'est pour ça qu'il faut être très chichiteux de ce point de vue. Il ne s'agit pas des églises particulières, non. C'est des églises locales. C'est toute l'église qui est dans tout l'endroit, comme on l'a vu l'autre jour. Paul, justement, qui dit Paul, serviteur machin, hein, à l'église qui est à Corinth. C'est toute l'église dans sa. Dans sa entièreté, qui est là, pas dans sa totalité. Parce qu'il y en a d'autres comme elle qui sont à Paris, voire à Nanterre. Pourtant, il faut. Bon, très bien. Bon. Et notre cas, pour que vous voyez à quel point les choses sont pas simples pour les canons. C'est la question de la traduction. Quel est le texte canonique ? Pour les juifs, ça va de soi, c'est le texte en hébreu. Pour les protestants aussi. Saint Jérôme, justement, il était un obsédé aussi de ça, il parlait tout le temps de la hebraica veritas, la vérité hébraïque. Et cet Augustin, qui ne connaissait pas l'hébreu, bah ça lui rendait fou et ça lui faisait dire des très gros mots. Parce que pour lui, le grec, évidemment, Philon d'Alexandrie, qui était un écrivain, un penseur juif super célèbre, qui a fonctionné entre moins 50 et plus 50, pour lui, qui était donc d'Alexandrie, donc du monde grec, et qui essayait de faire aussi tout un travail, comme je vous ai dit, du livre de la sagesse, donc d'approximation au monde grec, dans la pensée, etc., pour lui, la traduction grecque, qu'il connaissait déjà, évidemment, parce qu'il était faite, et le texte d'origine en hébreu sont deux sœurs. Non pas une mère et une fille, ça change complètement. Si on prend le schéma mère-fille, vous donnez une sorte d'infériorité à la fille par rapport à la mère. La mère, c'est l'origine, etc. Et en même temps, bon. Donc, si vous dites deux sœurs, elle ne dit pas deux sœurs jumelles, mais enfin, tout comme. Donc, même dignité. Bon, c'est vrai que les juifs, maintenant, ne peuvent pas piffer Philon. Ça, c'est la première chose qu'on puisse dire. du point de vue, enfin, quelqu'un que je vous ai cité tout au début dans la bibliographie, Barthélemy, qui est un super expert en critique textuelle, pour lui, la Septante et le texte masorétique, le texte en hébreu, les deux sont inspirés. Les deux. Parce que pour lui, les critères de canonicité, si vous voulez, ou d'inspiration, passent par la réception, surtout liturgique. Et pour lui, un texte, enfin une famille, texte que ce soit les Grecs ou les Syriaques ou l'hébreu, etc., et on pourrait même dire, et le latin, qui pendant très longtemps et pendant des communautés très nombreuses ont été utilisées dans la liturgie, c'est un critère de canonicité. C'est pas faux et ça donne à penser. Un exemple concret, un exemple très concret, le livre de Jérémie. Si vous comparez le texte de la traduction grecque du livre de Jérémie avec les textes, disons, hébreux, pour faire simple, très rapide, vous verrez que le texte grec est 1/8 plus court que le texte en hébreu. On constate dans le reste de la traduction grecque et dans tous les phénomènes des traductions, la traduction tend toujours à gonfler. Donc, et là, on se trouve devant un phénomène contraire. La traduction mincit, mais d'un huitième, c'est-à-dire 2500 mots en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, jusqu'à le texte de Qumran, bon, on n'avait pas d'explication matérielle. On avait émis l'hypothèse d'après laquelle, à l'époque du Nouveau Testament, il y avait deux familles de textes en hébreu, une longue et une courte, ou une grosse et une mince. Mais on n'avait pas de preuve. Et à Qumran, on a trouvé des textes hébreux relevant de la tradition longue et des textes en hébreu qui sont ceux de la tradition courte. Autrement dit, le texte grec a été traduit en grec d'un original hébreu plus court, ce qui veut dire qu'à l'époque de Jésus, il y avait deux Jérémie, un gros et un mince. Bon, vous allez dire, oui, alors que ça, on s'en fout. Non, pour une raison très simple. C'est que nous, en Occident, dans les églises latines, nous, on a suivi le texte long, celui qui est devenu le texte officieux du monde juif. Et les églises orientales, elles, ont suivi le texte grec. Du coup, on se trouve dans l'église catholique romaine, les occidentaux qui ont un gros Jérémie et les orientaux qui ont un Jérémie un peu rachitique. Et tout ça, la même foi. Autrement dit, on a deux Bibles différentes. Bon. Et on s'en passe fort, fort bien. On 99% 99%, ils ne réalisent même pas. Mais la réalité, c'est là. Ce qui veut dire que la matérialité du texte ne fait pas la canonicité. Et, comme disait Barthélemy, le fait de la réception par les communautés, et surtout la réception liturgique, c'est ça qui est quand même les lieux de vie. Hein, c'est pas... la réception théologique dans le fac ou je ne sais pas quoi, non, mais la réception au niveau de la liturgie. On voit effectivement que les églises orientales, que ce soit grecque ou maronite ou irakienne ou gréco-catholique, etc., ben, ils sont le grec et donc le Jérémie mince, maigrichon. Et en Occident, on a les gros Jérémie, bien repus. Bon, je m'arrête là, parce que c'est l'heure presque, et je finirai la semaine prochaine dans un quart d'heure, 20 minutes, la question de l'inspiration. Ça, vous serez très frais, et comme ça, on pourra finir cette question qui est quand même assez compliquée.
Donc, moi, je ne connaissais pas, et je viens d'apprendre, ça, c'est très intéressant que la liste canonique des livres a été fixée seulement en 1536.
Ah,
36.
Oui.
Non. Mais, en revanche, la question que je me pose, est-ce que cette liste canonique, je pense que cette liste canonique est la même pour les orthodoxes et les catholiques?
Les orthodoxes n'ont pas fait, à ma connaissance, une déclaration, si vous voulez, officielle de leur concile, mais c'est mais l'usage.
Mais ils utilisent le même...
Je pense à un texte qui a mis du temps, un texte de l'Ancien Testament qui a mis du temps à être inclus dans les canons, c'est le texte du Siracide.
C'est ça, oui.
Mais et dans l'église grecque, etc., ils l'ont adopté, je crois, au 10e, je crois, quel siècle, comme ça, après l'église latine.
D'accord. Mais ils ont suivi l'église latine. D'accord.
Ils ont suivi l'église latine, en tout cas, ils se sont retrouvés.
Parce que le même phénomène qui existait, c'est-à-dire différence sur la situation, devait exister chez les orthodoxes aussi.
Oui.
Donc, ils ont peut-être profité de l'existence...
Là, la question se posera plutôt du côté des orthodoxes, du côté du Nouveau Testament. Par exemple, à l'église éthiopienne, il y a un texte qui est dans le canon de l'église orthodoxe et éthiopienne, qui est le livre d'Enoch.
D'accord.
Ils là, mais uniquement comme objet d'étude.
D'accord. Alors, ok. Bon, c'est passionnant. C'est très intéressant. Mais...
Bonsoir.
Bonsoir. Et puis, là, moi, je fais des études catholiques, mais je suis d'origine arménienne.
Ouais.
Et j'ai deux points rapides là-dessus. Ouais. Premièrement, en arménien,
ouais,
lié à l'inspiration,
ouais,
la Bible ne s'appelle pas la Bible. Elle s'appelle...
Ah, c'était mon grec.
Elle s'appelle, oui, mais elle s'appelle Astratashou, qui veut dire le sens c'est soufflé par Dieu ou inspiré par Dieu.
Voilà. Ça nous revient à la question de l'inspiration.
Voilà, exactement, c'est pour ça. C'est pour ça. Et le deuxième